100% d'Europe, Léa Lisa Westerhoff.
Le but de notre présence sur le continent noir a été défini par Léopold II. Ouvrir à la civilisation européenne ces pays attardés.
Ces mots particulièrement choquants sont ceux du roi Baudouin, prononcés le 13 janvier 59 à la radio belge. Une déclaration vieille de plus de 60 ans, mais qui en dit long sur l'état d'esprit des empires coloniaux à l'époque. Aujourd'hui encore, 60 ans après les indépendances, le récit de cette période coloniale, violente, voire barbare, a du mal à s'écrire en Europe. Exemple en Belgique, où il y a un an, le musée Tervuren ou musée de l'Afrique a fait peau neuve. Après avoir servi pendant des années d'outil de propagande pour la colonisation du Congo-Kinshasa, les historiens chargés de sa rénovation tentent d'en faire un musée explicatif, plus critique, et ce n'est pas facile, comme nous le raconte Laxmi Lota qui l'a visité.
Calvin Suarez Njal se rappelle avoir visité le musée royal de l'Afrique centrale quand il était plus jeune et avoir ressenti une grande colère. Il fait aujourd'hui partie du collectif pour la mémoire coloniale.
C'était très très rageant, parce que quand vous mettez des animaux à côté des humains, il y a un amalgame dans une société où on considérait déjà des Noirs comme étant proches des singes. Un gamin de 4-5 ans qui vient d'une famille où on a des stéréotypes sur les Africains, le lien quand même, c'est dérangeant en fait. Moi j'étais dérangé de voir que des Noirs, c'est-à-dire des ancêtres africains, on parle de leur histoire en les mettant à côté d'animaux, comme si ils avaient la même histoire en fait.
Ce musée a en effet été créé en 1898, juste après l'exposition universelle de Bruxelles, où des zoos humains avec des populations congolaises ont été présentés. Un musée voulu par le roi Léopold II et qui était un outil de la propagande colonialiste. Bruno Verbercht, directeur opérationnel des services orientés vers le public, aujourd'hui notre guide dans le musée.
Nous sommes ici dans un musée, dans un bâtiment qui a été construit pour défendre, pour promouvoir le colonialisme. Et c'est dans ce bâtiment même, tout à fait restauré comme à l'époque, qu'on veut maintenant faire parvenir la parole anticoloniale.
Toute une réflexion a été lancée lors de la rénovation du musée de l'Afrique centrale. Objectif, dépoussiérer les préjugés, le racisme, les représentations fausses. Bruno Verbercht.
On voit ici vraiment très bien comment fonctionnait toute l'image qu'on voulait donner de l'homme africain ou de la femme africaine, des personnes africaines comme primitifs, nus, scarifiés, effrayantes, et donc pas encore civilisés, parce que c'était ça l'idée de cette propagande coloniale, il faut civiliser ces Africains.
Il y en a donc, par exemple, la fameuse statue de l'homme léopard.
Oui, l'homme léopard, une statue qui est bien connue ici en Belgique, mais même ailleurs au monde, parce qu'elle figure dans Tintin au Congo, une figure d'un homme noir qui s'habille en léopard et qui sort la nuit pour tuer les autres gens.
Mais pour Calvin Suarez Njal, membre du collectif pour la mémoire coloniale, cette présentation est trop ambiguë, notamment sur le fameux homme léopard. Il manque des explications.
Nous, ce qu'on aurait voulu, c'est qu'on rétablisse la vérité sur la société des hommes léopards. Parce qu'on les a présentés comme des gens cannibales qui allaient manger les gens la nuit, alors que aujourd'hui, quand on voit les textes en petits caractères, on se rend compte, quand on analyse bien, que ça a été quand même une caste de résistants, en fait, les hommes léopards. Si on n'a pas de guide, on est perdu.
Nous sommes à présent dans une immense salle recouverte de marbre et richement décorée de statues dorées louant les bienfaits de la colonisation. Problème, l'explication de texte pour critiquer ces statues, cette grandeur, est minuscule. Et de nombreux visiteurs s'extasient finalement sur la beauté des lieux. Bruno Verbercht, directeur opérationnel des services orientés vers le public, admet qu'il y a quelque chose à modifier dans cette salle.
C'était une des critiques qu'après l'ouverture, on est ouvert maintenant 10 mois, qu'on va changer. Et pour plus mettre en évidence cette distance qu'on veut prendre, parce qu'il n'y a pas de doute, on veut prendre cette distance. Il y a là un statut qui s'appelle « La Belgique apportant la civilisation au Congo ». Bon, vous pouvez comprendre qu'aujourd'hui, on a vraiment honte presque de ce titre, parce qu'on sait très bien que si c'est déjà de la civilisation que la Belgique a apportée, il y avait aussi des atrocités. Et c'est aussi un titre qui fait semblant comme s'il n'y avait pas de civilisation avant, qui n'est pas vrai.
Sur un mur, une œuvre d'art contemporaine laisse apparaître les noms d'une dizaine de victimes congolaises de la colonisation belge, uniquement quand le soleil brille. Au-dessus des milliers de noms de victimes belges, le contraste est saisissant. Bruno Verbergt rappelle que l'État belge n'a jamais présenté d'excuses pour les massacres commis lors de la colonisation.
Jusqu'à présent, ni le roi ni le gouvernement se sont excusés pour les atrocités ou les victimes ou le malheur qui a été fait au peuple congolais pendant la période coloniale.
Ça reste donc compliqué.
C'est ce que c'est. Ça reste compliqué parce que il y en a au niveau du gouvernement. Vous devriez le demander au Premier ministre, par exemple. Mais c'est vrai que jusqu'à l'instant, c'est même si, par exemple, là, ce working group des Nations Unies ou des personnes d'origine africaine aimerait l'avoir. Ses excuses ne sont pas encore accordées.
L'Africa Museum a donc fait un pas vers l'autocritique pour regarder sa propre histoire. Le musée présente aussi la bibliothèque de l'époque avec ses ouvrages scientifiques racistes. Un premier pas qu'il faudra assurément compléter selon le collectif pour la mémoire coloniale.
They have killed our people.
Non seulement notre peuple a été massacré, mais nous avons perdu notre culture et les droits sur nos terres.
En France, il y a la guerre d'Algérie dont une partie des archives est toujours frappée du sceau du secret défense. Un secret qu'Emmanuel Macron s'était promis de lever il y a un an. Aujourd'hui, les familles et les historiens attendent toujours. En Allemagne, c'est la colonisation de la Namibie qui est victime d'une amnésie collective. Pourtant, les historiens sont unanimes. Entre 1904 et 1908, l'Allemagne impériale a commis un génocide contre les peuples Herero et Nama dans le sud-ouest de l'Afrique, l'actuelle Namibie. Jusqu'à 100 000 personnes ont été tuées. C'est le premier génocide du XXe siècle. Mais plus de 100 ans après, l'Allemagne rechigne à assumer ses responsabilités. Exemple avec cette plainte déposée par les descendants des victimes Herero et Nama. Les explications de Julien Méchaussier.
C'est une procédure judiciaire qui met dans l'embarras le gouvernement allemand. Une plainte déposée au tribunal de New York par les représentants des peuples Herero et Nama contre l'Allemagne. La législation américaine permet en effet à des personnes privées de porter plainte contre un État en cas de crime qui tombe sous le coup du droit international. Si la plainte a été rejetée en première instance cette année, les descendants de victimes ont fait appel en jeu des réparations qui pourraient s'élever à 35 milliards d'euros selon la presse namibienne. Cette voie juridique est la conséquence de l'échec des discussions entre les deux pays. La Namibie réclame des réparations et des excuses officielles, tandis que l'Allemagne propose une aide au développement et une relation bilatérale privilégiée. Alors que les Herero et Nama dénoncent une amnésie coloniale, Berlin mise donc sur la diplomatie. Le ministre du Développement allemand Gerd Müller était en visite officielle en Namibie, une visite loin d'être anecdotique. La dernière visite d'un responsable politique allemand de premier rang remontait à plus de 20 ans avec la venue du président fédéral de l'époque. Par peur de devoir payer des réparations, les Allemands évitaient jusqu'ici de prononcer le mot « génocide », un tabou enfin brisé par Gerd Müller, lui qui s'est rendu dans la ville portuaire de Swakopmund, à l'endroit même où les Allemands avaient laissé mourir des milliers de personnes dans un camp de concentration, avant de s'incliner devant le monument dressé en hommage aux victimes. Si le ministre a ensuite reconnu officiellement la responsabilité allemande, il n'a pas prononcé les excuses, pourtant si attendues.
Mogadiscio, la bella capitale somala, come è apparsa nella superba visione dei suoi bellissimi edifici, tutta candida fra il verde dei palmizi.
Et pour terminer ce tour d'horizon, direction l'Italie. Là aussi, le passé colonial est totalement méconnu. La colonisation de l'Érythrée, de la Somalie et de la Libye et la guerre contre l'Éthiopie ne sont toujours pas enseignées dans les manuels scolaires. Pourquoi ? C'est le reportage de Franceline Beretti.
Quand on lance les Italiens sur le colonialisme, beaucoup admettent ne pas connaître le sujet. Souvent, ils ne pensent pas au passé colonial de leur propre pays, comme cette lycéenne, Eleonora.
Ça concerne surtout les grandes puissances européennes, donc la France, l'Angleterre. Elles se sont déplacées surtout dans les pays du Moyen-Orient.
Et quand on lui demande quels pays ont été sous domination italienne, ça n'est pas évident non plus.
La Libye, je crois, enfin c'est possible. L'Érythrée et... Ah oui, la Corne de l'Afrique.
Ces lycéens de Rome peuvent en général citer tous ces pays sans aller beaucoup plus loin. Chiara a eu l'équivalent du bac. Elle suit maintenant des études en France et constate le peu d'importance apportée à l'histoire coloniale dans son pays et à l'histoire de la décolonisation.
On n'a pas beaucoup de leçons sur ça. T'as pas l'occasion d'approfondir ce thème. Après, si par ta culture personnelle ou tes connaissances, t'es passionné par ça et tu t'informes, ça, d'accord. Mais à l'école, c'est pas si traité que ça et si approfondi que ça.
L'Empire colonial italien, c'est 60 ans d'histoire et même moins de 10 ans pour la domination de l'Éthiopie. C'est donc court comparé à l'histoire coloniale d'autres pays comme le Portugal, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne ou la France. Et ça s'arrête très soudainement avec la défaite de l'Italie fasciste en 1943. L'historien Nicolas Labanca étudie ces questions. Pour lui, cette fin brusque explique aussi que les Italiens soient passés à côté de la fin de leur empire colonial.
Les Italiens n'ont pas vécu l'expérience des rapatriés des colonies dans ces années-là. Contrairement aux Français, aux Anglais ou à la Belgique, au Danemark, les Italiens étaient déjà rentrés. Ils n'ont pas vu ces hommes et ces femmes venir des colonies, comme la France a vu arriver les Algériens, les Tunisiens, les Vietnamiens. Les Italiens n'avaient pas chez eux ces populations africaines ou asiatiques pour leur rappeler le colonialisme passé. C'est aussi pour ça qu'ils en savent moins. Ce n'est pas un hasard si le retour de mémoire des Italiens, en général, commence dans les années 1980-90, quand des Africains et des Asiatiques sont venus vivre en Italie, que c'est devenu un pays d'immigration.
L'Italie est un pays d'immigration depuis peu. Les Italiens se pensent encore aujourd'hui comme un pays d'émigration. Pour Nicolas Labanca, cela explique en partie le racisme actuel. En partie seulement, car le phénomène se répand en Europe, dans d'autres pays, par exemple en Allemagne, avec la violence d'Alternative für Deutschland. D'ailleurs, selon le chercheur, les Allemands ignorent aussi leur passé colonial. Mais l'Italie a bien une spécificité. Nicolas Labanca.
Quelle est la différence de l'Italie? C'est qu'elle a moins d'anticorps. C'est-à-dire que les Français, les Anglais, ont reçu un vaccin anticolonial à l'époque de la décolonisation. Les Italiens ont moins de connaissances, ce n'est pas de leur faute, personne ne leur a rien raconté. Si on l'avait fait, ils auraient compris. On n'a rien dit au moment où c'était important, au moment de la décolonisation.
L'Italie n'a pas eu ces grands intellectuels prenant parti pour les peuples colonisés. L'anti-impérialisme de la gauche et de certains milieux catholiques s'est surtout exprimé après la Seconde Guerre mondiale, quand l'Italie avait déjà perdu ses colonies. Le film « La bataille d'Alger » du réalisateur italien Gillo Pontecorvo est emblématique. C'est une féroce critique du colonialisme qui s'appuie sur le cas français. C'est depuis quelques années seulement, notamment dans la littérature, que l'Italie retrouve sa mémoire coloniale et celle des crimes qui l'ont accompagnée. C'est un livre, ou plutôt une bande dessinée ancrée dans l'actualité, qui mêle le drame des migrants, la menace djihadiste et la question de la préservation de l'art. Une maternité rouge de Christian Lax raconte l'odyssée d'Alou, un jeune cueilleur de miel malien, jusqu'au musée du Louvre pour sauver une statuette d'Ogon des griffes des islamistes. Christian Lax nous explique d'abord la rencontre décisive entre Alou et les djihadistes. Il était interviewé par Catherine Roland.
On est en 2015, des djihadistes surprennent Alou en train de récolter ce miel, ils n'aiment pas ça. Ils font, en guise de représailles, exploser son baobab, parce que le baobab est un arbre sacré. Et dans l'explosion du baobab, Alou découvre cette statuette qui représente une petite maternité. Et bien sûr, il la cache dans son t-shirt et il part avec. Il va trouver le chef d'un village, qui est un personnage important, un sage, qui lui dit que cette statuette a une valeur incommensurable, selon lui, qui date du XIVe siècle. Et selon lui, là où cette statuette serait le plus à l'abri de toutes les exactions, c'est dans ce sanctuaire qu'est le musée du Louvre. Donc Alou, le jeune chasseur de miel, va se retrouver missionné, en quelque sorte, pour emmener cette statuette au Louvre.
Ce jeune héros, Alou, donc, quitte son village, non pour fuir la misère ou l'insécurité, mais bien pour sauver de l'art, la statuette.
Oui, parce que lui, bon, après tout, jusqu'à ce qu'il tombe sur ces djihadistes, il mène une petite vie bien tranquille, à récolter son miel, que sa sœur va vendre au marché, etc. Il n'a aucune raison de quitter sa région. Bon, alors c'est lui qui est chargé de faire le voyage jusqu'en France. Et ce voyage, il y a un circuit, c'est celui qu'empruntent les migrants.
Oui, vous racontez d'ailleurs dans un gris très élégant, juste brisé par le rouge de la statuette, toute cette épopée. Alors, il y a le désert, le voyage en mer qui est aussi très dangereux. Il arrive en France, hein, finalement, après des mois d'épopée. Il espère bien que cette maternité rouge devienne la clé de son acceptation en France.
En tout cas, il est obsédé par une chose, c'est la faire entrer au musée. Il tourne un peu aux alentours du musée. Il se retrouve hébergé dans ce camp de migrants qui est resté là à peu près 2 ans ou 2 ans et demi. Cette promiscuité, ce danger, cette précarité, il ne sait pas trop comment faire entrer sa statuette. Son obsession, elle est là, et des circonstances fortuites vont faire qu'il va parvenir à trouver un canal pour s'infiltrer au Louvre et donc aller présenter cette statuette à ceux qui sont susceptibles de l'accueillir, si tant est qu'elle en vaille la peine.
Oui, il est d'ailleurs assez décontenancé par l'attitude des experts, un en particulier qui s'appelle Claude, oui, qui a l'air bien plus intéressé par la statuette que par le parcours d'Alou.
Effectivement, et Alou il est à la fois ravi de voir que sa statuette, après avoir franchi pas mal d'obstacles, elle est prise en charge, elle est acceptée. Et Claude, qui est un homme porté par l'amour de son travail, par l'amour de l'art, il n'a de souci que pour cette statuette dont il faut prendre grand soin, sans trop s'inquiéter des souffrances qu'Alou a pu vivre et qu'il est appelé à vivre encore, parce que lui, son parcours n'est pas fini.
Alors, pour écrire et dessiner cette bande dessinée, est-ce que vous êtes énormément documenté, notamment de ces camps de migrants qui ont été éparpillés à travers Paris, notamment ?
Alors, je n'ai côtoyé et brièvement que celui-là. Comme tout un chacun, je suis forcément au courant de tout ce qui se passe. Tout ça nourrit ma réflexion. Et au quai d'Austerlitz, j'ai notamment parlé un bon moment avec un jeune Saoudien qui avait fait un périple un peu similaire. Je n'ai pas eu d'autres contacts que cela.
Pourquoi vous avez choisi de mêler finalement 3 thèmes d'actualité très forts ? Donc la migration, le terrorisme, la question de l'art, justement. Est-ce que l'art est plus important que la vie ?
Pas plus, mais pas beaucoup moins. Enfin, c'est important de conserver nos patrimoines artistiques parce qu'ils nous disent d'où on vient et peut-être que ça peut contribuer à nous aider à imaginer où on va.
On se quitte en musique avec vous, Vincent Teval, et votre sélection du jour. Bonjour Vincent.
Bonjour Léa-Lisa.
Aujourd'hui, Xyloris White, on part en Grèce.
Et oui, avec un 4e album pour le duo Xyloris White qui réunit le chanteur et joueur de luth grec Georgios Xyloris et le batteur australien Jim White. Le premier est issu d'une grande famille de musiciens grecs et le second est à 57 ans. Une pointure du rock de ces 30 dernières années. Les deux sont amis depuis longtemps, mais n'ont entamé qu'en 2013 leur collaboration avec une musique où la sécheresse du blues se frotte à des sonorités propres aux musiques crétoises. Leur 4e album s'intitule The Sisypheans, en référence au mythe de Sisyphe. Et c'est une méditation sur la vie de musicien ambulant, sur l'idée aussi de remettre son ouvrage sur le métier et creuser toujours plus un son, des thèmes, des mélodies, une technique pour mieux en saisir la richesse, comme le jeu de luth de Georgios Xyloris, poussé ici dans ses derniers retranchements.
Accent d'Europe, c'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation, Françoise Grelot. Pour nous écouter partout, tout le temps, rendez-vous sur notre site RFI.fr à la rubrique podcast. À demain.